Chapitre 33. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions, et l'on oublie les voix, qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout, ne prends pas froid. Irène Fayolle et Gabriel Prudent se sont rencontrés à Aix-en-Provence en 1981. Elle avait 40 ans et lui 50. Il défendait un détenu qui en avait aidé un autre à s'évader. Irène Fayolle s'était retrouvée dans ce tribunal à la demande de son employée et amie Nadia Ramirez. Cette dernière était la femme d'un complice du prévenu. « On ne choisit pas de qui on tombe amoureux », avait-elle dit à Irène entre un décollement de racines et un brushing. « Ce serait trop simple. » Irène Fayolle a assisté au procès le jour de la plaidoirie de Maître Prudent. Il a parlé du bruit des clés, de liberté, de ce besoin de s'extirper de murs sans âge, de retrouver le ciel, l'horizon oublié, l'odeur du café dans un bistrot. Il a parlé de solidarité entre détenus. Il a dit que la promiscuité de l'enfermement pouvait donner naissance à une véritable fraternité entre les hommes, que libérer la parole était une sortie de secours, que perdre la liberté, c'était perdre un être cher. Que c'était comme un processus de deuil, que personne ne pouvait comprendre s'il ne l'avait pas vécu. Comme dans 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, durant la plaidoirie, Irène Fayolle n'a regardé que les mains de Maître Prudent. De grandes mains qui s'ouvraient et se fermaient, avec des ongles blancs parfaitement polis. Irène Fayolle s'est dit « C'est drôle, les mains de cet homme n'ont pas vieilli ». Elles sont restées en enfance, ce sont celles d'un jeune homme, des mains de pianiste. Quand Gabriel Prudent s'adressait au jury, elle s'ouvrait. Quand il s'adressait à l'avocat général, elle se refermait dans une crispation telle qu'elle semblait rabougrie, comme si elle retrouvait leur âge véritable. Quand il fixait le président, elle se figeait. Quand il observait le public, elle ne tenait pas en place, comme deux adolescentes surexcitées. Et quand il revenait vers l'accusé, elles se rejoignaient, se blottissaient l'une contre l'autre, comme deux chatons qui cherchent la chaleur. En quelques secondes, ses mains passaient de l'enfermement à la joie, de la retenue à la liberté, puis repartaient vers une sorte de prière, de supplication. En fait, ses mains ne faisaient que mimer ses paroles. Après la plaidoirie, il a fallu quitter la salle d'audience pour aller boire un verre dans Aix pendant que le jury délibérait. Il faisait beau comme toujours à Aix, et cela n'enjouait ni n'attristait Irène. Le beau temps ne lui avait jamais fait aucun effet. Elle s'en fichait comme de sa dernière chemise. Nadia Ramirez est partie à l'église du Saint-Esprit pour allumer un cierge. Irène est entrée dans un café au hasard, elle n'a pas eu envie de terrasse comme tous les autres. Elle est montée au premier étage pour être tranquille. Elle voulait lire. La veille au soir, tandis que Paul, son mari, dormait déjà, elle avait commencé un roman dans lequel elle voulait se replonger. Maître Prudent, qui aimait le soleil, mais pas la foule, était là, seul, assis dans un coin, attendant le verdict de son client contre une fenêtre fermée. Les yeux dans le vague, il fumait cigarette sur cigarette. Bien qu'il soit seul à l'étage, une épaisse fumée envahissait la pièce jusque dans les lustres. Avant d'en éteindre une, il s'en servait pour en allumer une autre. Une fois de plus, Irène s'est figée à la vue de sa main droite qui écrasait le mégot dans le cendrier. Dans le roman de la veille, elle avait lu qu'un fil invisible relie ceux qui sont destinés à se rencontrer, que ce fil peut s'en mêler, mais jamais se briser. Quand Gabriel Prudent a vu Irène Fayolle en haut de l'escalier, il lui a dit « Vous étiez dans la salle tout à l'heure. » Ce n'était pas une question, juste une remarque. Ils étaient très nombreux dans la salle d'audience et elle était au fond, sur l'avant-dernier banc. Comment l'avait-il remarqué? Elle n'a pas demandé. Elle s'est assise dans un coin, en silence. Et comme s'il l'avait entendu penser, il s'est mis à lui décrire la tenue vestimentaire de chaque membre du jury et des deux suppléants, des prévenus et de toutes les personnes assises dans le public, les unes après les autres. Il employait de drôles de mots pour parler de la couleur d'un pantalon, d'une jupe ou d'un pullover. Amarante, bleu outre-mer, blanc d'Espagne, chartreuse, corail. On aurait dit un teinturier ou un vendeur de tissus au marché Saint-Pierre. Il avait même remarqué que la dame à l'extrême gauche sur le troisième banc, celle avec un chignon jet, un foulard coquelicot et une tenue gris de lin, portait une broche en forme de scarabée. Pendant cette description vestimentaire hallucinante, il agitait ses mains à certains moments, surtout quand il avait eu à prononcer le mot « vert » qu'il n'avait pas prononcé. Comme si ce mot lui était défendu, il avait employé les mots « émeraude »,« mentalo », »,« pistache » et « olive ». Toujours silencieuse, Irène Fayol se demandait quel était l'intérêt pour un avocat d'identifier les vêtements de chacun. Une fois encore, comme s'il l'avait entendu penser, il lui a dit que dans un tribunal, tout était inscrit dans le vêtement. L'innocence, les regrets, la culpabilité, la haine ou le pardon. Que chacun choisissait précisément ce qu'il portait le jour d'un jugement, que ce soit le sien ou celui d'un autre. Comme pour son enterrement ou son mariage. Qu'il n'y avait pas de place pour le hasard. Et que selon ce que chaque individu portait, lui était en mesure de deviner si c'était quelqu'un de la partie civile ou adverse, de l'accusation, de la défense, un père, un frère, une mère, un voisin, un témoin, une amoureuse, un ami, un ennemi ou un curieux. Et qu'il ajustait sa plaidoirie selon le vêtement et l'allure de chacun quand il posait ses mots et son regard sur lui. Et que par exemple, elle, Irène Fayol, à la façon dont elle était habillée aujourd'hui, il était clair qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire, qu'elle n'avait aucun parti pris, qu'elle était là en dilettante. En dilettante. Il a vraiment employé ces mots. Elle n'a pas eu le temps de lui répondre, Nadia Ramirez venait de la rejoindre. Elle a dit à Irène qu'elle exagérait de s'enfermer dans ce bistrot par un temps pareil, que son mec, lui, il aurait rêvé d'une terrasse. Et que s'il était acquitté, il ferait toutes celles d'ex les unes après les autres pour fêter ça. Et Irène Fayol a pensé « Moi, mon rêve, c'est de continuer à lire le roman que j'ai au fond de mon sac ou de partir en Islande avec l'homme aux mains qui fume clope sur clope au bout de cette pièce. » Nadia a salué Maître Prudent, lui a dit que sa plaidoirie était exceptionnelle, que comme convenu, elle le paierait un peu chaque mois, que son Jules serait sûrement acquitté grâce à lui. Et l'avocat a répondu entre deux taffes, avec une voix grave, « Nous le saurons tout à l'heure, après les délibérations. Vous êtes très en beauté. J'aime beaucoup la robe rose dragée que vous portez. Je suis sûre qu'elle a remonté le moral de votre mari. » Irène a bu un thé. Nadia un jus d'abricot et Gabriel Prudent une pression sans mousse. Il a réglé toutes les consommations et est parti avant elle. Irène a regardé ses mains une dernière fois. Elles étaient crispées sur ses dossiers. Deux grosses pinces qui serraient les affaires en cours. Irène Fayol n'a pas pu entrer dans la salle d'audience pour le verdict. Seules les familles étaient admises. Mais elle a attendu devant le tribunal, au bout de la passerelle, pour observer la couleur des vêtements des gens qui en ressortiraient. Elle a vu le pullover bleu outre-mer, la robe corail, la jupe mentalo et le scarabée de la femme au chignon jet. Elle les a tous vus, les uns après les autres. Irène est rentrée seule à Marseille. Nadia Ramirez est restée à Aix pour fêter l'acquittement de son Jules de terrasse en terrasse. Quelques semaines après, Irène a fermé son salon de coiffure et s'est lancée dans l'horticulture. Elle se disait qu'elle voulait faire autre chose de ses mains. Elle était arrivée au bout des cheveux à couper, des produits à l'ammoniaque, des bacs à shampoing et surtout des bavardages. Irène Fayol était d'une nature taiseuse, trop secrète pour être coiffeuse. Pour être un bon coiffeur, il fallait être curieux, drôle et généreux. Elle pensait ne posséder aucun de ses attributs. Depuis des années, la terre et les roses la taraudaient. Avec l'argent de son salon, elle a acheté un bout de terrain dans le 7e arrondissement de Marseille qu'elle a transformé en roseraie. Elle a appris à planter, faire pousser, arroser, cueillir. Elle a aussi appris à créer de nouvelles variétés de roses couleur carmin, framboise, grenadine et cuisse de nain fémue en repensant aux mains de Gabrielle Prudent. Elle a créé des fleurs comme on crée des mains qui s'ouvrent et se referment selon la météo. Un an après, Irène Fayolle a raccompagné Nadia Ramirez à Aix-en-Provence pour un second procès. Son mari s'était fait à nouveau pincer dans une histoire de stupéfiants. Avant de partir, Irène s'est demandé comment s'habiller pour ne pas ressembler à une dilettante. Elle a été déçue. Maître Prudent n'était plus là. Il avait quitté la région. Irène l'a appris sur le chemin entre Marseille et Aix, dans la voiture, quand Nadia lui a dit être inquiète, parce que cette fois, ce ne serait pas Maître Prudent qui plaiderait la défense de son Jules, mais un confrère. « Mais pourquoi ?» a demandé Irène comme une enfant qui part en vacances et qui apprend qu'il n'y aura pas la mère. Une histoire de divorce, il avait déménagé. Nadia n'en savait pas plus. Les mois ont passé, jusqu'au jour où une femme est entrée dans la roseraie d'Irène Fayolle pour commander une gerbe de roses blanches à faire livrer à Aix-en-Provence. En remplissant le récépissé de livraison, Irène a noté que les roses étaient à déposer au cimetière Saint-Pierre d'Aix pour Madame Martine Robin, épouse Gabrielle Prudent. Pour la première fois, c'est Irène qui a fait la livraison le matin du 5 février 1984 à Aix-en-Provence, où il avait gelé durant la nuit. Elle avait particulièrement soigné la gerbe de fleurs à livrer. Elle prenait toute la place arrière de son utilitaire Peugeot. Au cimetière Saint-Pierre, un employé municipal l'a autorisé à emprunter les allées en voiture pour déposer les roses près de la sépulture de Martine Robin, qui n'était pas encore en terre. Il n'était que 10 heures et l'enterrement n'aurait lieu que dans l'après-midi. Dans le marbre était gravé « Martine Robin, épouse Prudent, 1932-1984 ». Sous son nom, sa photo avait déjà été scellée. Une belle femme brune qui souriait à l'objectif. Cette photo avait dû être prise quand elle avait une trentaine d'années. Irène est ressortie pour attendre. Elle voulait revoir Gabrielle Prudent, même de loin, même cachée. Elle voulait savoir si c'était lui, le veuf, si c'était sa femme que l'on mettait en terre. Elle a cherché dans les avis de décès, mais n'a rien trouvé le concernant lui. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès subit de Martine Robin, survenu à Aix-en-Provence à l'âge de 52 ans. Martine était la fille de feu Gaston Robin et feu Micheline Bolduc. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marthe Dubreuil, ses frères et sœurs, Richard et Morissette, sa tante, Claudine Bolduc-Babé, sa belle-mère, Louise, de nombreux cousins, neveux et nièces et ses amis proches, Nathalie, Stéphane, Mathias, Ninon, ainsi que plusieurs autres. Aucune trace de Gabrielle Prudent, comme s'il avait été rayé de la liste des préposés au chagrin. Irène est ressortie du cimetière et a roulé jusqu'au premier bistrot situé à environ 300 mètres, un routier. Elle s'est fait cette réflexion. C'est bizarre ce routier coincé entre le cimetière et la piscine municipale d'Aix. On dirait qu'il s'est perdu. Elle s'est garée et a failli rebrousser chemin parce que les vitres étaient sales et les rideaux qui pendaient aux fenêtres hors d'âge. Mais une ombre l'a retenue. À l'intérieur, une silhouette courbée. Elle l'a reconnue malgré les carreaux sales. Il était là. Vraiment là. Appuyé contre une fenêtre fermée, fumant une cigarette, le regard dans le vide. L'espace de quelques secondes, elle a cru halluciner, confondre, prendre ses désirs pour la réalité, être dans un roman mais pas dans la vie, la vraie. Celle qui est moins drôle que les promesses que l'on s'est faites en classe de troisième. Et puis, elle ne l'avait vue qu'une seule fois, 3 ans auparavant. Il a levé la tête quand elle est entrée. Il y avait 3 hommes accoudés au comptoir et seul Gabrielle Prudent était attablé. Il lui a dit... Vous étiez à Aix pour le procès de Jean-Pierre Raymond et Jules Ramirez l'année où Mitterrand a été élu. Vous êtes la dilettante. Elle n'a pas été surprise qu'il la reconnaisse, comme si ça tombait sous le sens. Oui, bonjour, je suis une amie de Nadia Ramirez. Il a secoué la tête, a allumé une nouvelle cigarette avec les dernières cendres de son mégot et a répondu je me souviens. Et sans l'inviter à s'asseoir à sa table, comme si c'était un fait acquis, il a commandé deux cafés et deux calvas en pointant l'index vers le plafond, puis en direction de la serveuse. Une nouvelle fois, Irène Fayol, qui n'avait jamais bu de café de sa vie, que du thé, et encore moins de calvados à 10 heures du matin, a fixé les grandes mains de Gabriel et s'est assise en face de lui. Ses mains n'avaient toujours pas vieilli. C'est d'abord lui qui a parlé, beaucoup. Il a dit qu'il était revenu à Aix pour enterrer Martine, sa femme, enfin son ex-femme, qu'il ne supportait pas les bénitiers, les curetons et la culpabilité. Alors, il n'irait pas à la cérémonie religieuse, juste à la mise en terre, qu'il attendrait ici, qu'il vivait avec une autre femme à Mâcon depuis 2 ans, qu'il n'avait jamais revu Martine, sa femme, enfin son ex-femme, depuis son départ, que comme il l'avait quittée parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, sa gosse, qui n'en était plus une, lui faisait la gueule, qu'il avait été anéanti par la nouvelle « Martine morte », mais que personne ne comprendrait, qu'il serait toujours le salaud de service qui avait abandonné une femme, la sienne. Et comme vengeance post-mortem, Martine, sa femme, enfin son ex-femme, ou sa fille, il ne savait plus trop, avait fait graver son nom à lui sur la pierre tombale. Elle l'avait emmené avec lui dans son éternité. Et vous, vous auriez fait ça, vous? Je ne sais pas. Vous habitez Aix? Non, Marseille. J'ai livré des fleurs ce matin au cimetière pour votre femme, enfin, votre ex-femme. Avant de repartir, je voulais boire un thé. Il fait froid. Ce n'est pas tellement que le froid me dérange, au contraire, mais j'avais froid. Là, au moins, le calvados, ça réchauffe. Je crois que j'ai la tête qui tourne. Enfin, je ne crois pas, j'ai la tête qui tourne. Je ne vais pas pouvoir reprendre la route tout de suite. C'est fort, le calvados. Excusez-moi si je suis indiscrète. D'habitude, je ne le suis pas. Mais comment avez-vous rencontré votre nouvelle femme?
Oh, rien d'original. À cause d'un homme que j'ai défendu pendant des années.
À force d'organiser sa défense, de l'expliquer à son épouse, à force de retourner en prison année après année, c'est nous qui avons fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Et vous, ça vous est déjà arrivé?
Quoi?
De tomber amoureuse?
Oui, de mon mari, Paul seul. Nous avons un fils, Julien, qui a 10 ans.
Vous travaillez?
Je suis horticultrice, avant j'étais coiffeuse, mais je ne fais pas que vendre des fleurs, je les cultive aussi. Je fais de l'hybridation.
De quoi?
De l'hybridation. Je mélange des variétés de roses pour en créer de nouvelles.
Pourquoi?
Parce que j'aime ça, le métissage.
Et ça donne quoi comme couleur?
2 autres café calva, s'il vous plaît. Carmin, framboise, grenadine, ou encore cuisse de nymphe émue. Je fais des variétés de blanc aussi.
Quel genre de blanc?
Neige. J'adore la neige. Mes rosiers ont aussi cette particularité de ne pas craindre le froid.
Et vous? Vous ne portez jamais de couleur sur vous? Déjà à Aix, pendant le procès, vous étiez toute beige.
Je préfère les couleurs vives sur les fleurs et les jolies filles.
Mais vous êtes pire que jolie. Votre visage a la vie devant lui.
Pourquoi vous souriez?
Je ne souris pas, je suis saoule.
Vers midi, ils ont commandé 2 omelettes salades et une assiette de frites pour 2. Et un thé pour elle. Il a dit « Je ne suis pas sûre que le thé et l'omelette fassent bon ménage. » À quoi elle a répondu « Le thé, ça va avec tout, c'est comme le noir et blanc, ça va avec tout. » Pendant le repas, il a léché ses doigts. Il a léché le sel des frites. Il a bu une pression. Pendant qu'elle mélangeait le thé anglais et un énième verre de calvados, il a dit « La Normandie et l'Angleterre, c'est comme le noir et blanc, ça va bien ensemble. » Il s'est levé 2 fois. Il a regardé la poussière, l'électricité statique autour de lui, dans les rayons du soleil. Ça faisait comme de la neige. Et ils ont recommandé des frites, du thé et du calva. D'habitude, dans un endroit aussi crado, Irène Fayol aurait essuyé les verres avec le revers de sa veste. Mais là, non. Quand le fourgon mortuaire est passé devant le routier, il était 15h10. Elle n'avait pas vu le temps passer. C'était comme si elle était entrée dans ce routier 10 minutes auparavant. Cela faisait 5 heures qu'ils étaient ensemble.
Ils se sont levés dans l'urgence. Il a payé dans l'urgence et Irène lui a dit de monter dans son utilitaire. Elle allait l'emmener. Elle savait où se trouvait la tombe de Martine Robin. Dans la voiture, il lui a demandé son prénom. Il a dit qu'il en avait assez de l'appeler « vous ».
Irène.
Moi, c'est Gabriel. Ils sont arrivés à hauteur de la grille qui menait à Martine Robin. Il n'est pas descendu. Il a dit «
On va attendre ici, Irène. Ce qui compte, c'est que Martine sache que je suis là. Les autres, je m'en fous. »
Il a demandé s'il pouvait fumer dans la voiture. Elle a répondu « Bien sûr ». Il a baissé la vitre. Il a posé sa tête contre le repose-tête. Il a pris la main gauche d'Irène dans la sienne et a fermé les yeux. Ils ont attendu en silence. Ils ont regardé les gens aller et venir dans les allées. À un moment, il leur a semblé entendre de la musique. Quand tout le monde est reparti, quand le fourgon mortuaire vide est passé à leur hauteur, Gabriel est descendu de la voiture. Il a demandé à Irène de venir avec lui. Elle a hésité. Il a dit « S'il vous plaît ». Ils ont marché côte à côte. J'ai dit à Martine que je la quittais pour une autre femme. J'ai menti. À vous, Irène, je peux dire la vérité. J'ai quitté Martine à cause de Martine. Les autres, ceux pour qui on quitte quelqu'un, ce sont des prétextes, des alibis. On quitte les gens à cause des gens. Faut pas chercher plus loin. Bien sûr, je ne lui dirai jamais. Et sûrement pas aujourd'hui. Quand ils sont arrivés à hauteur de la tombe, Gabriel a embrassé la photo. Ses mains ont agrippé la croix qui dominait la stèle. Il a chuchoté des mots qu'Irène n'a pas entendus et qu'elle n'a pas cherché à entendre. Ses roses blanches étaient au centre de la tombe. Il y avait de nombreuses fleurs, des mots d'amour et même un oiseau en granit.
Mais qui vous a raconté tout ça?
Je l'ai lu dans le journal que tenait ma mère.
Elle tenait un journal?
Oui. Je l'ai trouvé dans des cartons la semaine dernière, en rangeant ses affaires.
Julien seul se lève.
Il est 2 heures du matin, je vais rentrer. Je suis fatiguée. Demain, je reprends la route très tôt. Merci pour ce dîner, c'était délicieux, merci. Ça fait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Ni passé un moment aussi délicieux. Je me répète, mais quand je me sens bien, je me répète.
Mais... qu'est-ce qu'ils ont fait après l'enterrement? Il faut que vous me racontiez la fin de cette histoire.
Peut-être que cette histoire n'a pas de fin. Il prend ma main et y dépose un baiser. Je ne connais rien de plus troublant qu'un homme galant.
Vous sentez toujours bon.
Eau du ciel, Danick Goutal.
Il sourit.
Eh bien, ne changez jamais. Bonne nuit.
Il enfile son manteau et sort de la maison côté rue. Avant de refermer la porte derrière lui, il me dit « Je reviendrai pour vous raconter la fin. Si je vous la raconte maintenant, vous n'aurez plus envie de me voir. »
En me couchant, je pense que je n'aimerais pas mourir au milieu de la lecture d'un roman que j'aime.